Mon nom est Catherine Doré et je vous souhaite la bienvenue à l'émission La Voix de la librairie, émission littéraire enregistrée en direct de la librairie Saint-Jean-Baptiste à Québec. Ce soir, comme à l'habitude, les livres et contenus présentés graviteront autour d'une thématique. Notre thématique du mois d'octobre est le doute. Caractéristique éminemment humaine, le doute est parfois ami et parfois ennemi. On le croit souvent absent dans la foi et présent en science, ce qui en fait n'est pas toujours le cas. Le dogme, qui entretient une relation antagoniste avec le doute, se cache derrière toutes les idéologies, qu'elles soient politiques, scientifiques, économiques ou religieuses. Nous allons donc parler ce soir du doute, le doute religieux, le doute philosophique et le doute scientifique. En compagnie de Mylène, on va explorer les méandres de la relation entre doute et foi à travers les textes de différents auteurs chrétiens. Ensuite, Patrick fera un historique de la place du doute en science, de la Grèce antique à nos jours, à partir du célèbre essai de Thomas Kuhn, La structure des révolutions scientifiques. Martin va ensuite nous entretenir du concept d'incertitude, concept relativement récent et qui a été exploré surtout dans le domaine de la physique. Pour conclure, Adrien distinguera pour nous différentes notions philosophiques, soit le déisme, l'athéisme, le panthéisme et l'agnosticisme. Mais avant de plonger dans l'univers de l'improbabilité et du scepticisme, nous allons parler de quelque chose de très réel avec notre invité du mois qui va donner une conférence ici même à la librairie le 13 octobre prochain, conférence qui s'intitule « La justice meurtrière ». Alors, on va faire une pause musicale et nous vous revenons avec M. Émile Grigorov qui va nous expliquer de quoi il sera question. Alors, on va écouter « Deux hommes dans la ville » de Philippe Sard. C'était « Deux hommes dans la ville » de Philippe Sard. Je vais vous présenter tout de suite mon premier invité. Émile Grigorov enseigne au département de philosophie de l'Université Laval et occasionnellement, il présente des conférences à la librairie Saint-Jean-Baptiste sur différents sujets. Et chaque fois, c'est un plaisir pour nous de l'accueillir à notre émission. Bonsoir, Émile.
Bonsoir, Catherine. Le plaisir est entièrement pour moi.
Donc, vous serez à la librairie le samedi 13 octobre prochain pour nous parler de « Justice meurtrière ». C'est un titre choc, ça? De quoi il retourne?
Je vais parler, en fin de compte, de la peine de mort.
D'accord.
Et puis, on va voir ensemble un film.
OK.
Le film « La vie de David Gale ».
Ah oui!
Qui traite notamment de la peine de mort et puis de l'échec que le système peut commettre.
Oui. Les erreurs judiciaires.
Oui, j'utilise consciemment le mot échec parce qu'il s'agit d'une erreur irréparable. Et c'est un échec dont on doit prendre conscience. Et c'est l'argument, je dirais, le plus fort contre la peine de mort. Parce que là, c'est notamment une justice meurtrière et c'est, les arguments en faveur de la peine de mort ne sont plus tenables.
Mais en fait, souvent, les arguments en faveur de la peine de mort, c'est davantage une question de donner l'exemple.
Deux arguments principaux ont été développés au cours de l'histoire des idées morales et juridiques. La peine de mort comme rétribution et la peine de mort comme prévention. Donc le premier argument, il accentue le rétablissement de l'ordre juridique, c'est-à-dire la restitution d'une condition d'égalité sous la forme de la rétribution. Et cet argument prend source dans l'archaïque Ius Talionis, la loi du talion.
Oui.
Dent pour dent, œil pour œil.
Oui, il y a quelque chose de la punition là-dedans.
C'est ça. Mais il est apparu pour répondre à une nécessité sociale. J'entends la nécessité de la codification et donc de la limitation des pratiques de vengeance.
Oui.
Et l'autre argument, le deuxième argument, celui de la prévention, il véhicule l'idée que la peine de mort est nécessaire pour dissuader les membres d'une société de commettre de meurtres prémédités ou des crimes allant à l'encontre de l'ordre social ou du bien public.
Oui, il me semble que c'est l'argument qu'on entend le plus souvent parce qu'enfin, le sens de la punition, c'est peut-être plus autant populaire qu'avant, alors que la prévention, on vit vraiment dans un monde qui est très, très préventif. On veut empêcher que les choses arrivent avant qu'elles arrivent. On est un peu paranoïaque là, au niveau de la sécurité.
Mais toutes les statistiques, toutes les recherches empiriques ont démontré que la peine de mort n'est pas capable de dissuader les gens de commettre des meurtres, et c'est tout au contraire. Par exemple, après l'abolition de la peine de mort au Canada en 1976, le taux des crimes meurtriers a baissé considérablement, tandis qu'aux États-Unis il ne fait que monter chaque année qui s'écoule.
Oui.
Donc cet argument il ne tient plus place de la dissuasion. Puis l'argument dont Ius Talionis, c'est clair que dans un monde dans le monde contemporain, il ne répond pas, il ne représente pas la loi naturelle, le droit naturel. La conscience morale de l'humanité a beaucoup changé. Et donc cet argument-là, il est également à remettre en question.
Qu'est-ce qui vous a motivé à donner une conférence ici à Librairie sur ce sujet?
D'abord, c'est mon amitié avec David. Deuxièmement, je pense que les questions morales, juridiques et politiques liées à la peine de mort sont loin d'être épuisées.
Tout à fait.
Et troisièmement, c'était un événement qui a eu lieu cette année. Lorsque le sénateur, non,
oui,
Monsieur Boisvenu, Monsieur
voilà.
Boisvenu, il a, j'ai été pas mal surpris de réaliser qu'au Canada, quelqu'un tient un discours en faveur de la peine de mort, et puis il était. Pas mal inventif, lui,
oui.
De proposer aux condamnés de se suicider, de se pendre par...
Oui.
Oui.
C'est un discours qui était assez surprenant, en effet.
Oui, donc oui. Je me suis dit oui. Que, bien que la tendance actuelle globale soit à la baisse de la peine de mort...
Oui, vous nous avez apporté d'ailleurs un tableau ici où on voit qu'effectivement, dans le monde, le nombre de pays abolitionnistes, ça veut dire contre la peine de mort, évidemment, progresse.
Oui.
Mais d'un autre côté, on dirait qu'effectivement, il y a un discours, par contre, qui n'est pas progressiste du tout, là.
Non, pas du tout. Dans plusieurs pays, dont le Canada, on observe un renforcement du discours en faveur de la peine de mort. Et je crois que ça fait partie de ce qu'on appelle révolution conservatrice.
Oui.
Et les enjeux sont, ne sont plus des enjeux moraux, puis des enjeux juridiques. Je pense que il est question de politique.
Oui.
Puisque il n'y a aucune utilité de la peine de mort, c'est déjà prouvé. On n'en a pas besoin d'encore de preuves.
Non, non.
C'est une par le biais de la peine de mort, l'État réaffirme de façon très très forte son autorité.
Oui.
Et cette autorité repose sur notre intuition de la condition tragique de l'être humain. Donc, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait des gens à condamner et à punir pour que l'autorité se réaffirme constamment. Mmh. Pour qu'il nous démontre que, qu'il a le droit légitime de doter la vie de l'être humain.
Ouais.
Donc c'est la question, je répète, la question est davantage politique.
Et ce qui est terrible, c'est que c'est une mesure assez populiste pour qu'un parti politique puisse décider d'aller chercher des votes avec une mesure comme celle-là.
Oui, oui. Et puis... ce qui me fait penser qu'on n'a pas beaucoup progressé sur le plan de la conscience morale.
De la conscience morale, oui.
Depuis l'Antiquité, il y a comme une pulsion, un instinct de vengeance de la foule se réjouit de voir
un coupable puni. Oui.
C'est un spectacle, enfin, ça fait longtemps qu'on fait pas des exécutions sur une place publique
là, mais je pense qu'il y aurait des gens qui seraient d'accord pour,
oui.
pour remettre ça au goût du jour. Bref, de toute manière, c'est une réflexion extrêmement pertinente et contemporaine. Je vous invite tout le monde à venir écouter la conférence donc de M. Émile Grigorov le 13 octobre prochain à 19h, qui s'appelle « La justice meurtrière » pour réfléchir donc sur la peine de mort. Merci, Émile.
Merci, Catherine.
On va faire une petite pause musicale. On va écouter la pièce de R.E.M. et on revient avec Mylène. On va parler du doute en religion.
Things that I will go to. was just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up you. And I don't know if I can do it. Oh no, I said too much. I haven't said.
Alors, on va commencer, on va débuter notre série d'entrevues sur la thématique du doute en commençant à explorer le domaine qui est le plus contesté, je dirais, en ce qui concerne le doute, soit la religion, avec Mylène. Bonsoir, Mylène.
Bonsoir, Catherine.
Donc, Mylène, doute et foi, est-ce que ça peut se conjuguer?
Ben, c'est sûr que pendant bien des années, il y a des théoriciens, des théologiens qui ont dit non. Il y a Calvin, entre autres, qui considérait que le doute n'était pas permis pour le croyant, que c'était péché que de ne plus s'en remettre à Dieu, ou de remettre en tout cas en question son existence. Mm-hmm. Puis est arrivé quand même des auteurs pour essayer de revoir un petit peu comment on peut, la modernité approchant, comment on peut tenir un discours sur la foi qui soit plus intelligible, intelligent, mm-hmm. si on veut. Entre autres, il y a Saint Anselme de Canterbury.
Saint Anselme de Canterbury.
Oui, c'est ça. Oui. Qui, lui, a écrit ce qu'on appelait le Prologum. Le premier titre, c'était « Fides Quaerens Intellectum ».
Et ça date de quelle époque, ça?
C'est, bon, environ, je pense, 1600.
Ah oui!
Puis, dans le fond, lui, le titre, en fait, ça veut dire « La foi qu'étant l'intelligence okay. ». Ou là, on l'a traduit aussi par « La foi en quête de son intelligence ». Et c'est l'acte qui est à la base, si on veut, de la théologie. C'est-à-dire qu'on a commencé à essayer d'élaborer un discours, un savoir sur vraiment la foi puis la connaissance qu'on peut avoir de Dieu. Il y a Thomas d'Aquin qui a poursuivi un peu cette œuvre-là. Il a contredit Saint Anselme, mais Thomas d'Aquin, dans sa somme de théologie, qui s'est servi d'Aristote, en fait, et de la philosophie, dans le fond, pour élaborer un savoir sur Dieu, sur mm-hmm. Vraiment se questionner logiquement, avec la raison, vraiment. Puis à l'époque, ça n'a pas plu du tout, c'est certain. Aristote, qui est un... à l'époque, de toute façon, celui qui était plus populaire, si on veut, dans les philosophes, c'était Platon. Mm-hmm. Donc déjà, Thomas d'Aquin arrive avec un philosophe qui est un peu sorti de l'ombre. Et là, il commence à se... Tu sais, Thomas d'Aquin avait pas du tout un discours comme « Dieu existe parce que je le sens et que j'en fais une expérience ». Il arrivait, la somme de théologie... est construite sur des syllogismes. C'est syllogisme sur syllogisme, objection, thèse, okay. objection. C'est vraiment... c'était vraiment innovateur à l'époque.
Et ce qui choquait les gens, est-ce que c'est le fait que d'aborder la foi d'un point de vue avec la raison, c'est comme si on mettait en doute?
Mais c'était pas tellement en doute, mais ça dérangeait là, que c'était comme une incursion dans le fond du profane dans
le sacré.
Surtout que là, c'était la raison qui était au centre, qui était le moteur de cette réflexion-là, et pas nécessairement la foi et voilà. L'expérience.
Okay.
Donc, ça ébranlait beaucoup les gens. Bon, maintenant, Thomas d'Aquin est un auteur qui est... Mais
reconnu.
Oui, mais il est souvent considéré... certaines personnes vont jusqu'à dire que c'est un peu le premier des modernes d'avoir, tu sais, osé aller à ce point-là avec la raison, mm-hmm. la logique, puis de parler de la foi de cette manière-là.
OK.
Donc, encore aujourd'hui, mais en fait, le constat qu'on faisait à l'époque et qui est un peu le même aujourd'hui, c'est qu'on ne pouvait plus continuer d'avoir un discours sur la foi, sur la religion, qui était carrément basé sur la subjectivité ou encore vraiment sur une autorité. Soit c'est l'individu qui est dans son expérience, ouais. soit c'est l'institution qui a sa tradition et qui impose une manière de... Alors, tu sais, il n'y avait pas d'entre-deux, là.
Ouais.
C'était... on essayait de...
Depuis l'État moderne, depuis toute la révolution scientifique, effectivement, pour le croyant, ouais. comment il fait pour répondre à toutes les objections qu'on peut lui apporter?
Aujourd'hui, c'est vraiment plus difficile pour les croyants, si on veut, d'arriver à justifier à quelque part, ou en tout cas à expliquer, même pour eux-mêmes, leur démarche, on a tendance souvent à juste à opposer foi et raison,
et raison,
foi et doute, comme si le croyant était celui qui ne se remettait jamais en question et qui conservait coûte que coûte qui s'accrochait à une vérité. Ce qui n'est pas nécessairement le cas, il y a eu Michel Desserteaux, entre autres, ou Raymond Lemieux, qui ont...
Ce sont des auteurs contemporains?
Contemporains, oui, absolument.
Michel Desserteaux, La faiblesse de croire?
Oui, Michel Desserteaux, qui est un jésuite, en fait,
okay.
qui est aussi un philosophe, qui essayait de...
C'est un titre qui m'intrigue beaucoup, moi, La faiblesse de croire.
Oui.
Tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que ça signifie?
Ben, c'est pas... je dirais que vite comme ça, ça c'est pas genre les gens qui croient
sont faibles
ou des crédules, si on veut. C'est pas ça qui est au cœur. Michel Desserteaux se sert un peu de la psychanalyse, si on veut, pour appuyer sa position que avoir la foi, quand tu as la foi, c'est-à-dire croire en quelque chose, c'est... être en manque d'un savoir. Si tu es obligé de croire, c'est qu'il y a un manque à quelque part et que le moteur de la croyance, c'est le désir, en fait.
Okay.
Donc, il y a vraiment une dynamique, une quête, c'est-à-dire une quête de... c'est-à-dire que c'est pas une quête d'une... C'est une quête de vérité, mais c'est toujours l'important dans ça. C'est pas la vérité, c'est la quête en tant que telle. C'est le okay. mouvement du désir qui cherche à comprendre l'inconnu, le mystère, l'autre. Donc, on a un peu inversé, ben, en tout cas déplacé les enjeux. À partir du moment où le désir s'arrête sur un objet ou sur un sujet et qui a une espèce de cristallisation c'est là que ça devient mortifère. Et la croyance aussi aujourd'hui, c'est pas juste se fait pas juste en milieu religieux, là. Je veux dire, tous les discours qu'on a sur la science,
oui.
en ce moment,
je suis tout à fait d'accord.
Aussi,
on va en parler un peu plus tard avec les autres invités aussi. Il est évident que le dogme se trouve absolument partout aujourd'hui. Tout à fait. En économie, donc, entre autres.
Oui, en économie.
Il y a beaucoup de dogmes.
Si on pense, par exemple, au trou noir, juste un exemple. Moi, je ne peux pas faire l'expérience du trou noir. Je suis obligée de de faire confiance à un spécialiste, comme les gens avant s'en remettaient au prêtre pour qu'il m'explique, parce que c'est pas intelligible pour moi. Oui. C'est pas quelque chose qui m'est pour laquelle je peux avoir un accès direct. Et on s'en rend pas compte, mais des postulats de foi comme ça, on en fait chaque jour, tu sais, des trucs qu'on n'a pas nécessairement vérifiés, qu'on n'a pas d'expérience empirique, mais pour lesquels on tient quand même pour vrai. Et c'est quand justement cette quête-là, ou en tout cas ce désir-là s'arrête, que c'est mortifère et que ça devient... que le risque de devenir entre guillemets totalitaire ou intégriste, peu importe le mouvement le courant de la pensée ou est présent dans le fond.
Dans le fond, toi, pour toi, désir et doute, c'est un peu la même chose.
C'est un peu lié parce que c'est comment je pourrais dire, c'est le désir qui amène tout le temps à se remettre en question. Mm-hmm. Puis c'est le désir d'approcher l'autre qui fait qu'il y a un mouvement constant, et ça procède du doute aussi. Oui. Puis même, je veux dire, il y a beaucoup de du côté de la théologie aujourd'hui pour appuyer, si on veut, cette vision-là de la foi puis de la quête. Tu sais, on sert beaucoup de passages de la Bible où les apôtres doutent tous à un moment donné. Oui. Puis ils demeurent des apôtres. Je veux dire, les 12, les choisis, les élus, si on veut, sont des êtres qui doutent sans arrêt.
Le croyant a le droit de douter.
Oui, exact. On n'est plus du tout dans un discours comme Calvin où là, c'est péché. Oui. Il y a vraiment... quelque chose là qui est pas possible.
Il y a un autre auteur dont tu voulais nous parler aussi tout à l'heure, donc que tu as effleuré, Raymond Lemieux.
Oui.
L'intelligence et le risque de croire.
Oui, ben en fait, Raymond Lemieux est un peu dans la lignée de Michel de Certeau. Mm-hmm. Lui, c'est un sociologue des religions qui a enseigné longtemps à Laval, qui est à sa pré-retraite. Et je voulais juste en fait lire une petite citation.
D'accord, on t'écoute.
En fait, j'en ai deux. L'intelligence ne vient pas compenser cette faiblesse, ni colmater ses brèches, ni combler ses manques. Elle vient au contraire les mettre en lumière afin que personne ne soit dupe, le croyant le premier des images ou, si l'on veut, des idoles dont il pourrait être tenté de se satisfaire. C'est-à-dire que il vient vraiment dire l'intelligence et foi sont interdépendants. Et sans une certaine intelligence de la foi, on risque justement la crédulité, puis mm-hmm. L'espèce de comment je pourrais dire, de stagnation de la pensée, puis c'est pas ça qu'on veut. Mm-hmm. Puis une autre en fait citation, c'est l'illusion se nourrit du refus de savoir que l'on croit. C'est pas tant c'est l'illusion, c'est pas, elle réside pas dans le fait de croire en tant que telle. L'illusion, elle va se trouver dans le fait qu'on refuse de savoir que l'on croit. C'est-à-dire qu'il faut toujours être conscient que la croyance n'est pas nécessairement un savoir. Et c'est à partir du moment où on la prend vraiment pour un savoir que personne ne peut remettre en question, que là, on est dans le domaine de l'illusion.
D'accord. Okay. Bien, écoute, je trouve ça vraiment intéressant, cette analogie là, que tu fais entre le désir et le doute. Oui. Dans le contexte de la religion. Merci beaucoup, Mylène.
Ça me fait plaisir.
Alors, on va faire une pause musicale et on va ensuite plonger dans un domaine... Oups, je viens d'avoir un retour de son dans les oreilles. Est-ce qu'on est toujours là? Oui, on est toujours en onde, parfait. Alors, on va aborder le domaine scientifique dans quelques minutes. On va écouter « Le sceptique » de Georges Brassens, interprété par Jean Bertola.
Imitant Courteline, un sceptique notoire, manifestant ainsi que l'on me désabuse, j'ai des velléités d'arpenter les trottoirs avec cette devise écrite à mon gibus. Je ne crois pas un mot de toutes ces histoires. Dieu, diable, paradis, enfer et purgatoire, les bons récompensés et les méchants punis, et le corps du Seigneur dans le fond du ciboire, et l'huile consacrée comme le pain béni. Je ne crois pas un mot de toutes ces histoires. Et la bonne aventure est l'art divinatoire, les cartes, les tarots, les lignes de la main, la clé des songes, le pendule oscillatoire, les astres indiquant ce que sera demain. Je ne crois pas un mot de toutes ces histoires. Les preuves à l'appui, les preuves péremptoires, témoins dignes de foi, metteurs de mains au feu, et le respect de l'homme à l'interrogatoire, et les vérités vraies, les spontanés aveux. Je ne crois pas un mot de toutes ces histoires. Le bagne, l'échafaud, entre autres exutoires, et l'efficacité de la peine de mort. Le criminel saisi d'un zèle expiatoire, qui bat sa coulpe bourrelée par le remords. Je ne crois pas un mot de toutes ces histoires. Sur les tombeaux, les oraisons déclamatoires, les « c'était un bon fils, bon père, bon mari, le meilleur d'entre nous et le plus méritoire, un saint homme, un cœur d'or, un bel et noble esprit. » Je ne crois pas un mot de toutes ces histoires. Les Saint-Jean, bouche d'or, les charmeurs d'auditoire, les placements de sentiments de tout repos, et les billevesées de tous les répertoires, et les morts pour connaître un avenir plus beau. Je ne crois pas un mot de toutes ces histoires, mais j'envie les pauvres d'esprit pouvant y croire.
Alors, on est de retour pour maintenant aborder le domaine scientifique où normalement le doute est roi. On va aborder ça avec Patrick. Bonsoir, Patrick.
Catherine, bonsoir.
Donc, tu vas nous expliquer quelle est la place du doute en science dans une perspective que tu as appelée historico-kuhnienne. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire, ça?
Oui, oui. Kuhnienne, ça vient de Kuhn, qui est un historien des sciences célèbre du 20e siècle, qui est connu, entre autres, pour son ouvrage « La structure des révolutions scientifiques ». Et dans cet ouvrage, il prend une perspective historique. Il cherche vraiment à caractériser l'histoire de la science. On peut être d'accord ou non à savoir si ça s'est vraiment déroulé comme ça. Mais il reste que ce que je vais mettre en évidence dans mon exposé, ma présentation, c'est seulement... En fait, c'est seulement de soulever un doute. Seulement de soulever un doute à propos de... Est-ce que le doute est si présent que ça en science?
En science. Ah, c'est bien ça!
On est souvent porté à penser que oui, la méthode, on doute de quelque chose, bon, on fait des hypothèses, on teste et tout ça. Et moi, je vais essayer de semer le doute, peut-être dans vos esprits, et dire que ça se passe peut-être pas nécessairement comme on pense.
Parfait.
Et
Donc, on débute?
Oui, on va débuter. J'aurais peut-être une couple de précisions à faire avant.
Oui.
J'ai appelé ça historico-kuhnienne. C'est pas tout le monde, comme je vous disais, qui endosse l'espèce de vision historique que Kuhn essaie de prendre.
Oui.
Moi, le premier, j'endosse pas ça. Mais comme je disais, l'important, c'est surtout de faire ressortir le doute, puis ça met ça en évidence. Et bon, je vais faire un petit peu d'histoire, mais c'est surtout, ça va être très caricatural. Là. C'est surtout pour bien donner une espèce d'exemple de ce que je dis. Et d'ailleurs, Mylène, avant moi, a déjà frappé sur mon truc. Là.
Ah bon?
Elle a déjà montré que ça n'existait pas en disant que oui, effectivement, c'est vrai ce qu'elle a dit. Thomas d'Aquin, avant Thomas d'Aquin, celui qui était le roi dans l'université, ben, c'était Platon, justement.
Oui, oui.
C'était pas Aristote comme on est porté à penser. Là, parce que d'habitude, on pense que c'est toujours été Aristote depuis le début jusqu'à Newton et tout. Mais non, elle a raison. Mais en tout cas, c'est pas très, très important.
Donc, tu vas nous parler du doute en science, en commençant par la Grèce antique, parce que, bon, c'était pas tout à fait de la science, mais on a quand même un point de vue sur la Grèce antique, comme quoi les gens s'interrogeaient sur la vérité du monde.
Oui, oui. Il y avait beaucoup de questions physiques. Et dans ce temps-là, bon, il faut dire que c'était les débuts, hein,
ouais.
Avec Thalès de Milet, les présocratiques et tout ça. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de spéculations. Physique, métaphysique, éthique, peu importe, tout se mélangeait. C'était pas structuré comme on peut connaître aujourd'hui, ça avait mm-hmm. absolument, absolument rien à voir. Le premier, bon, à s'être interrogé à propos de questions philosophico-physico, en tout cas, ce genre de questions-là, c'est Thalès de Milet,
okay.
Qui s'interrogeait sur les constituants ultimes du monde. Bon, qu'est-ce qui, ultimement, constitue le monde? Aujourd'hui, c'est c'est plus les atomes, c'est les particules subatomiques, là, mm-hmm. les bosons de Higgs, et etc., là, et tout. Lui, il avait postulé que c'était l'eau, pourquoi pas? Pour plusieurs raisons, peu importe. Le doute là-dedans.
Oui.
La question fondamentale des physicologues, on emploie ce terme-là une fois de temps en temps, là, des présocratiques, Thalès, Anaximandre, Anaximène, Démocrite, il y en a beaucoup. C'était pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose alors qu'il n'y aurait plus rien à voir?
OK.
Au sens très large, il ne faut pas essayer de trop interpréter. C'est vraiment, ça dit ce que ça veut dire. Là. On vit dans un monde, il y a des objets, il y a des plantes, des êtres humains plein d'affaires. Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose quand...
Effectivement, il pourrait ne rien y avoir.
Ne rien avoir du tout. Ça aurait pu être le néant. C'était leur question.
C'était la première question qui a mené à des découvertes scientifiques, dans le fond, ou en tout cas des réflexions scientifiques.
Des réflexions, peut-être pas scientifiques, comme je vous disais, au sens où on l'entend, mais un mélange de plein de types de réflexions, ouais.
OK.
Ça a commencé comme ça. Mais ce que je voulais mettre en évidence surtout, c'est que c'était pas très structuré. Tout le monde y allait un peu comme il pensait. Il y avait une idée, il se levait un matin, une idée. Ah, ça doit être l'eau. Ah, ça doit être l'air, le feu, peu importe. Il y avait une idée, il développait cette idée-là. Il y avait des fois des disciples, des fois non, qui répétaient ça, ils modifiaient un peu. Mais c'était comme ça. Puis une des raisons principales, c'est qu'on n'avait pas l'écriture. Pythagore n'a pas écrit, Thalès n'a pas écrit. La plupart des présocratiques, Socrate non plus, il n'a pas écrit. Parce qu'on n'écrivait pas dans le temps. Et les fragments oui. qu'on a de leur théorie et tout ça, ça a été... Aristote a été un des premiers à recueillir ça et à étudier ça systématiquement okay. et tout ça.
Okay.
Mais c'était pas... On n'avait pas les conditions pour avoir une pensée structurée ou unifiée.
OK.
Parce qu'il n'y avait pas l'écriture.
T'étais sur une île. C'est Aristote qui a mis ça comme écrit, par écrit. Donc, c'est lui qui a été considéré comme étant le premier par conséquent.
Oui, pas juste pour ça, mais effectivement, Aristote était un très grand lecteur. Je crois qu'il y a des gens que je connais pas qui l'appelaient le lecteur, d'ailleurs. On raconte qu'il s'assoyait dans son bureau, ce qui pouvait correspondre à un bureau aujourd'hui, avec une roche dans la main et qu'il lisait. Et la raison pour laquelle il avait une roche dans la main, c'est que quand il s'endormait, la roche tombait, ça le réveillait, puis là, il se remettait à lire, il reprenait sa roche jusqu'au prochain dodo. Alors, bon, oui, c'est ça, mais c'est pas juste pour
c'est
ça.
C'est une Aristote. Légende ou un mythe, mais enfin, c'est amusant.
Oui, c'est très amusant. L'histoire des présocratiques est remplie d'histoires amusantes comme ça. Et Aristote, c'est pas juste pour ça. Effectivement, il connaissait... On était à une époque où c'était presque possible d'avoir une connaissance totale de tout, là, de tout ce qui se faisait dans les pensées, parce qu'à l'époque d'Aristote, bon, l'écriture commençait à se développer un peu et tout, hein, c'était possible de communiquer un peu plus. Il prenait ça, puis sur la base de ça, il a construit d'autres choses de complètement originales. C'est clair que c'était très intéressant. Donc oui, c'est en partie parce qu'il connaissait tout un paquet d'affaires, mais c'est aussi parce que c'est tout un penseur avec une originalité qui lui est propre et qui lui a valu d'être dans les écoles pendant très, très longtemps.
Il est encore enseigné.
Il est encore très enseigné. En tout cas, il est très enseignant. Et il a été enseigné, en fait, pas juste en philosophie, en sciences, en physique et tout ça, pendant très longtemps, en fait, jusqu'à Newton. Et même ouais. après Newton, ça n'a pas été un changement instantané. Il y a eu Platon beaucoup, comme Mylène faisait remarquer, jusqu'à saint Thomas d'Aquin. Bon, saint Thomas d'Aquin n'a pas toujours fait l'unanimité, comme elle disait. Il a même été excommunié, si je ne m'abuse, là, au début. Mais après ça, par exemple, c'était la grosse affaire. Connaître Aristote, c'était... c'est comme avoir un doctorat aujourd'hui.
Oui. Tu viens de parler de Newton. Newton, ça signifie un changement drastique dans la manière de voir la science ou de penser le doute?
En tout cas, pour Kuhn, oui. Pour Kuhn, c'est peut-être le temps de faire une petite pause théorique, là, si vous voulez. L'idée de Kuhn, c'est que la science avance par paradigme. Bon, c'est quoi un paradigme? Là, je ne vous embêterai pas avec des trucs abstraits, parce que pour Kuhn, c'est très concret. Un paradigme, c'est une résolution de problèmes exemplaires.
OK.
Et bon, là, ça a l'air abstrait, je vous en menti, mais ça s'incarne dans des ouvrages concrets. Le paradigme de Newton, c'est les principia de Newton.
Mm-hmm.
Qu'est-ce qu'on entend par résolution de problèmes exemplaires? Bon, Newton, là-dedans, s'attaque à tout un paquet de problèmes qu'on connaît, là, des problèmes physiques, là, et il donne des résolutions. Entre autres, en enfreignant certaines règles qu'Aristote avait défendues, comme utiliser les mathématiques pour décrire... ce qu'il appelait le monde sublunaire, c'est-à-dire le monde sublunaire, c'est ce qu'il y a, c'est la Terre finalement, là, ce qu'il y a en dessous de la Lune, là. Et pour Aristote, on pouvait pas faire ça. Mais Newton, il est allé, et pas de main morte.
Il a représenté une révolution dans la manière de penser le monde par rapport à Aristote.
Oui. Et bon, là où je m'en allais avec ça, excusez-moi, je m'égare, c'est que, bon, paradigme, OK, on retient ça, c'est quelque chose, une résolution de problème exemplaire qui s'incarne dans un ouvrage. L'ouvrage, dans ce cas-là, c'est les Principia Newton,
mm-hmm.
qui ont fait école. Puis ça, pour Kuhn, c'est important parce que ça constitue le premier paradigme en physique. C'est-à-dire, ça a été le premier ouvrage, la première résolution sur laquelle toute la communauté scientifique s'entendait.
Okay.
On enseignait ça dans les écoles, aux étudiants et tout ça. Ils apprenaient à faire ça. Et qu'est-ce qu'on fait avec un paradigme? Bon, on a une résolution de problème exemplaire. Et on essaye de l'étendre au plus grand nombre de problèmes possibles. Les Principia Newton, c'est assez... c'est très vaste, là, encore une fois, mais il reste que c'est limité à un certain nombre de problèmes. On essaye de l'étendre au plus grand nombre de problèmes possibles. Alors, tu pognes 16-17 ans, tu t'en vas à l'école, et là, t'as 2-3 choix, t'as pas trop de choix encore à l'école dans ce temps-là. Tu dis, moi, bon, je vais être physicien, ou peu importe comment ça s'appelait à cette époque-là. OK, tu vas être physicien, on t'enseigne les Principia. Alors, pendant une couple d'années, tu apprends les Principia. Des fois, tu fais des erreurs, tu te frappes un peu sur les doigts. Et après ça, quand tu es rendu un vrai scientifique de formation, tu as ton diplôme et tout, tu t'en vas dans un laboratoire ou dans ton sous-sol, quelque chose comme ça. Et tu étends ce paradigme-là au plus grand nombre de problèmes possibles.
Mais il n'y a pas de doute dans tout ça, là.
Ah, c'est là que ça s'en vient intéressant. Pour Kuhn, un paradigme, la résolution de problèmes, c'est quelque chose de spécial, dans le sens que ça modifie littéralement la façon de voir le monde des gens qui sont sous ce paradigme-là. Mais quand je dis, je parlais pas abstraitement, quand je dis modifier la façon de voir le monde, ça modifie la façon de voir le monde. Kuhn donne l'exemple il appelle ça des Gestalt Switch. Ça, c'est très simple. C'est comme la fameuse illusion du lapin et du canard. Là. Bon, on regarde un peu, on voit un lapin. On regarde encore un petit peu, on voit un canard. Il y a comme un switch qui se fait.
Oh. OK. C'est comme les illusions d'optique, là. On voit soit un homme, soit un chapeau.
C'est exactement ce genre d'affaire-là qu'on avait en tête. Ou même quand on dessine un cube ou un objet en trois dimensions sur une feuille, des fois, on le voit de perspectives différentes et tout ça. Pour Kuhn, quand on acquiert un nouveau paradigme, c'est exactement ça qui se passe.
OK.
Ça a l'air bizarre, là, et c'est un peu bizarre. Mais pourquoi? C'est parce que l'observation, en science, c'est pas comme observer des oiseaux, des voitures passer ou des gens comme ça. Non, comment tu fais ça? Tu regardes ça à travers des appareils. Au début, c'est rudimentaire, c'est des télescopes, des choses comme ça. Et bon, un télescope, ça pose pas trop de problèmes. T'sais, pourquoi? Parce qu'un télescope, ça augmente une capacité qu'on a déjà. Là. Tu pourrais avoir... pour le dire vite, tu pourrais observer les mêmes choses avec un télescope que si tu mangeais beaucoup, beaucoup, beaucoup de carottes. Alors, d'habitude, ça fait consensus. Le,
t'as pas vu, mais t'as fait rire Martin derrière.
Un amateur de télescope.
De carottes.
De carottes, peut-être. Bon, alors, ben, c'est sûr que là, on parle des télé, on parle pas des, de Hubble. Là. Hubble, ça prendrait beaucoup de carottes, là. Peut-être même des cils, en tout cas. Mais ça va bien. Mais quand on est rendu avec des microscopes électroniques ou des choses comme ça, on a des appareils qui endossent de plus en plus de théories scientifiques.
Oui.
Puis ces théories scientifiques-là, ils viennent pas du néant, ils viennent du paradigme sous lequel l'appareil a été conçu.
Oui.
Alors, si on vient à l'observation, quand tu observes quelque chose à l'aide de ces appareils-là, ce qu'on fait régulièrement en physique, puis encore aujourd'hui, c'est l'enfer, là. Je veux dire, on construit des gros Christie de Bang, puis on fait péter de l'atome en plus finir, puis tout d'un coup, on trouve un boson. On endosse tout un paquet de théories scientifiques qui font que c'est dans ce sens-là que ça change notre façon de voir le monde, ou en tout cas la façon selon laquelle les scientifiques voient le monde, qui est aussi la nôtre. Je veux dire, pour la plupart des gens, quand on regarde une table, c'est un paquet d'atomes.
Mais ce que je comprends, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de place au doute dans cette démarche scientifique-là. C'est qu'on part avec une méthode qu'on applique systématiquement et on se fie davantage aux instruments qu'on utilise qu'aux questionnements sur la nature du monde ou des choses.
Pas nécessairement une méthode. C'est plutôt un exemple.
Un paradigme?
Oui, un paradigme, c'est pas nécessairement une méthode. C'est plutôt un exemple. C'est dans... tu vois un gars qui résout un problème, tu te dis, c'est pas fou. On va essayer d'appliquer ça à d'autres problèmes.
OK.
Bon, OK. Mais ce qu'il y a de vrai, c'est que... Pourquoi une autre distinction qui a rapport avec ce que tu disais, c'est... d'ailleurs, ça paraît que tu as déjà lu le bouquin. C'est la distinction entre science ordinaire et science extraordinaire.
OK.
Ce que je vous ai parlé, quand on essaie d'étendre un paradigme au plus de problèmes possibles, de résoudre le plus de problèmes, ça, c'est en période de science ordinaire. Et mon point où je voulais en arriver, peut-être pas par ce chemin-là, mais peu importe, on est arrivé au point, et c'est ça qui est important.
Ouais.
C'est que en période de science normale, on peut pas douter du paradigme. Et je dis ça au sens fort. Même si on voulait de toute notre force, on n'en peut pas parce que ça conditionne notre façon de voir le monde, la façon que les scientifiques ont de voir le monde.
Ok.
Et ça nous mène à quelle conclusion logiquement? C'est que les différents paradigmes sont complètement incommensurables entre eux. Préférer un paradigme à un autre, tu peux pas le faire pour des raisons rationnelles. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de commune mesure entre les deux.
OK.
Ça prendrait un espèce de point de vue externe au paradigme pour pouvoir les comparer entre les deux, mais tu peux pas. Tu es toujours pris dans un paradigme. Donc, pour là, le coup n'est pas nié, là, parce qu'effectivement, les gens changent de paradigme. Sauf que tu dis que tu peux pas les comparer entre eux, sont incommensurables. Qu'est-ce que tu es obligé de dire? Je vais dire, bon, ouais, OK, c'est pour des raisons sociologiques. Parce que la science paradigmatique, ou un paradigme, c'est ça se fait en communauté.
Oui.
C'est pas un gars tout seul dans son sol avec des feuilles de papier, puis... un genre de Sherlock Holmes, je ne sais pas trop.
Ce que je comprends, c'est que si quelqu'un arrivait avec une théorie qui ne fonctionnait pas dans le paradigme actuel, tous les scientifiques présents diraient « ben c'est pas vrai » ou « c'est pas valable ». Donc, ce nouveau paradigme-là, cette nouvelle théorie-là, ça ne rentrait pas dans le paradigme, elle serait rejetée finalement.
Oui, elle serait rejetée. Ou bien, si elle n'est pas si choquante que ça, on pourrait essayer de l'adapter, de trouver des petites hypothèses, de dire « bon, OK, c'était à cause que telle condition initiale était problématique » ou quelque chose comme ça. Mais ça, c'est des détails... passionnant, mais si je pars là-dedans, on n'a pas fini. Bon, fait que là, on a parlé de la science ordinaire, mais évidemment, il y a des changements de paradigme. Les changements de paradigme, ça se fait dans les périodes de science extraordinaire.
OK.
Durant lesquelles, pour des raisons plus diverses les unes que les autres, ça peut être presque mystique. Hempel, dans un de ses ouvrages les plus connus, parlait de, je me souviens plus trop quel scientifique, bon, en tout cas, que son idée, une de ses idées par rapport à les constituants de signes de la matière, lui était venu en faisant un rêve, en regardant son feu, où il y avait des espèces de trucs magiques et tout ça. Peu importe la raison, à un moment donné, le paradigme va entrer en crise. Ça peut être parce qu'il ne réussit pas à s'étendre à des nouveaux problèmes ou tout ça. Et que, bon, la communauté scientifique est dans un certain état sociologique qui fait que c'est le bon moment pour tomber en crise. Et là, on va être plus ouvert à différents développements de paradigmes. Il peut même y avoir différents paradigmes qui se développent en parallèle, ce qui est impossible en période de science normale.
Okay.
Quand tu fais de la physique, ça veut dire que tu es en dessous de ce paradigme-là, point final. Tu peux pas avoir deux paradigmes, la physique, c'est un paradigme.
Est-ce qu'on est en période de science normale ou de science extraordinaire?
Catherine, c'est une très bonne question. Et j'y ai pensé en l'écrivant, j'y ai pensé, et je te l'ai écrit dans mon plan, et c'est probablement pour ça que tu m'en parles. Et, je suis très occupé comme gars, et j'ai pas le temps de faire assez de recherches. Mais mon impression, Catherine, c'est que on est dans une drôle de période. Pourquoi? Parce qu'on est dans une espèce de période où on tente d'unifier les affaires.
Oui.
Dans les grandes réalisations qu'on a faites, on a réussi à unifier trois des quatre forces qu'on dit souvent fondamentales en physique. La force électromagnétique, la force d'attraction faible, la force d'attraction forte. Et là, il y a une petite quatrième là, qui nous dérange un peu. Et bon, ces trois-là, on a réussi à les regrouper puis à en rendre compte avec de façon assez convaincante avec la physique quantique, la mécanique quantique. Mais la force de gravitation, la quatrième, qui nous dérange beaucoup, on essaye, mais c'est pas, on n'a pas de résultat aussi concluant, là, pour faire une histoire rapide. Alors, on est encore obligé de faire intervenir le vieux bonhomme à moustache avec des drôles de cheveux.
Oui!
On est obligé de faire intervenir M. Einstein.
C'est M. Einstein.
Oui. Et sa fameuse théorie de la relativité générale pour rendre compte de ça. On n'est pas capable d'unifier ça. Bon, mon intuition par rapport à ça, c'est qu'on est comme en face de deux paradigmes qui sont durs à concilier. Puis, ben là, si on revient à Kuhn, si t'as deux paradigmes qui existent en parallèle, t'es dans période de science
de crise, et donc il y a une possibilité de science extraordinaire.
Oui. Et ça ouvre plein de possibilités. Il peut arriver plein de choses. Mais on va voir. On verra bien. Qui vivra, verra.
Eh bien, merci beaucoup, Patrick. Est-ce que c'est terminé?
Oui.
Oui, formidable. Écoute, ça nous fait vraiment un survol assez complet de la manière dont le doute et l'évolution de la science à travers des années et des siècles. Merci beaucoup. On va faire une petite pause musicale et on va rester en science avec Martin qui va se joindre à nous au retour. On va écouter Small Talk du groupe Ultra Ista.
Small talk on you. Don't wanna be the night.
c'était Small Talk de Ultraista. Oui, la musique continue. Voilà, c'était Small Talk du groupe Ultraista. Alors, bonsoir Martin.
Bonsoir Catherine.
Alors, avec Patrick, qui vient de nous dresser un portrait assez complet, donc de la place du doute en science. Toi, tu vas nous parler d'un concept un petit peu voisin du doute, de l'incertitude.
Oui, tout à fait, c'est ça. L'incertitude, le doute, c'est quoi? C'est pas être certain.
Oui,
finalement,
voilà.
C'est un peu ça. Quand on doute, c'est parce qu'on n'est pas certain de ce qu'on pense.
Dans le fond, doute et incertitude, c'est pas mal des synonymes.
Oui, si tu veux, exact. Alors, tout d'abord, on va essayer de définir c'est quoi la science. La science, c'est l'ensemble des disciplines qui tentent de comprendre ou d'expliquer ce qui se passe dans l'univers. Et avec ça, parce que le but ultime de la science, c'est de pouvoir prédire qu'est-ce qui va se passer quand on fait quelque chose.
Okay.
Alors, ça a commencé comment? Ça a probablement commencé avec l'agriculture, dans le sens où après la nuit vient le jour.
Tu sais. Oui.
Après l'été vient l'automne.
Oui.
C'est une prédiction.
Oui, ben oui.
C'est le début de cette pensée-là de l'homme, l'humanité a commencé à essayer de prévoir des choses,
oui.
De dire, bon, ben voilà, qu'est-ce qui se passe, comment je peux bénéficier, qu'est-ce que je vais faire dans le futur, si tu veux.
Oui.
Alors, toute la démarche scientifique qui est un peu basée là-dessus.
C'est comprendre le fonctionnement du monde pour pouvoir...
en profiter.
En profiter, voilà.
En bout de ligne. Si on regarde les Grecs, comme Patrick parlait tantôt, là, on tombe plus peut-être dans le domaine du comprendre, le domaine plus philosophique, un peu, pas nécessairement juste de prédire, mais de comprendre mieux le pourquoi
comprendre
des choses.
Comprendre pour comprendre, là.
Comprendre pour comprendre, si tu veux. Alors, tout ça dans le but de prédire. Et évidemment, tantôt, on a parlé de Newton.
Oui.
Probablement que Newton a été l'apogée un peu du dogme, si tu veux, en science, dans le sens où Newton, tout est déterministe.
Oui.
Il y a cause, il y a effet.
OK.
Alors, tout est basé là-dessus. Et Newton, c'est probablement celui qui a mis ça, qui a organisé ça le mieux, si tu veux. Avant lui, c'était pas vraiment aussi bien organisé.
Mm-hmm.
Alors, c'est la causalité. Dans cette causalité-là, on a un espace qui est immuable, on a un temps qui est constant, etc. Tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est où sont les choses, à quelle vitesse elles vont, dans quelle direction elles vont, puis on est capable de prédire tout ce qui va se passer.
Okay,
comme si l'univers, c'était une grosse table de billard, si tu veux.
OK.
Puis si on vise bien, ben la boule, elle va s'en aller à telle place, puis elle va rebondir, si tu veux, puis tout ça. Alors ça, c'est Newton.
Ce que tu me dis, dans le fond, c'est que les principia de Newton, c'est une méthode de compréhension du monde qui est un peu dogmatique.
C'est que le monde lui-même, dans son fonctionnement, est prévisible.
Oui.
Et de façon inhérente, il est prévisible. Alors, on fait une action, il y a une réaction. Et cette réaction-là est en lien direct avec l'action qu'on a posée.
OK.
Et ça m'a bien fait rire tantôt l'histoire de la roche d'Aristote.
Oui.
Parce que c'est la pomme de Newton.
Oui.
Qui est apocryphe aussi dans le sens où c'est pas arrivé du tout, mais lui aussi s'est fait réveiller tout à coup par un objet. Et là, c'était une pomme qui est tombée sur la tête. Là, tout à coup, la gravité fonctionne comme ça. C'est pas vrai, mais bon, dans l'imagerie populaire, c'est demeuré comme la roche d'Aristote. Alors, après ça, bon, ben, on a roulé un bout sur Newton et c'est une réussite. Soit dit en passant, Newton avait aussi un peu les mêmes caractéristiques que les Grecs, c'est-à-dire que c'était un touche-à-tout. Hein. C'était un alchimiste, c'était un théologien. Autant il nous a donné les principia, autant il a fait des affaires qu'on qualifierait aujourd'hui de charlatanisme.
Ah, oui.
Tout à fait. C'était un gars, mais il n'était pas dans la Renaissance, ça se passe après la Renaissance, mais c'était un peu le même genre de modèle que Léonard de Vinci, tout ça, où les gens, à ce moment-là, la science était assez restreinte pour que quelqu'un puisse s'intéresser à tout.
À tout, c'est
et
ça.
Et c'était le cas de Newton, et c'était un génie, probablement plus intelligent encore qu'Einstein, tout ça, on n'a aucune idée de son quotient intellectuel. Parlant d'Einstein, c'est là que la cassure arrive par rapport au déterminisme dans un premier temps. Alors, en 1905, Einstein nous arrive avec sa théorie de la relativité restreinte,
mm-hmm.
et là, nous dit ceci, il dit, écoutez, il n'y a pas de cadre d'espace fixe, il n'y a pas de temps constant, tout ça est relatif à l'observateur. La seule affaire qui demeure pareille pour tout le monde, c'est la vitesse de la lumière, le reste... C'est l'observateur. Alors, il n'y a pas de simultanéité, il n'y a rien de tout ça. Alors, la réalité là-dedans, elle est où?
Ouais.
Chacun a la sienne. C'est sûr que ça paraît pas à notre échelle, là, nous, toi et moi, on a la même réalité, bon, etc., etc. Mais quand on augmente les distances, tout à coup, oups, c'est plus pareil, là. Ça arrive-tu en même temps? Est-ce qu'on voit les choses telles qu'elles sont réellement? C'est quoi la réalité? Alors, c'est le premier doute qui s'installe.
C'est que la réalité n'est plus stable. La réalité cesse d'être stable.
C'est qu'elle est relative à l'observateur.
C'est
alors,
ça.
Dépendamment qui regarde cette réalité-là et la vitesse, bon, etc., etc., tout ça qu'il faut tenir en compte, ça change. C'est pas pareil. Alors, la réalité absolue vient d'en prendre un petit coup, là, tu sais.
Ben, ça remet en question la certitude de la capable de décrire le monde tel qu'il est.
Comment décrire une réalité qui est différente pour tous et chacun.
Voilà.
Exactement.
OK.
Tout de suite après ça, ou enfin même en même temps, ça s'est développé en même temps, la mécanique quantique, qui n'est pas l'œuvre d'un seul homme, contrairement à la relativité, bien que la relativité restreinte, Einstein s'est basé sur les travaux de plusieurs autres, mais la relativité générale, c'est vraiment plus son bébé à lui. La mécanique quantique, c'est collégial, là. Il y a une masse de monde là-dedans, je peux t'en nommer, je me suis fait une petite liste. Alors, il y a Max Planck, Niels Bohr, Heisenberg, de Broglie, Van Neumann, Hilbert, Schrödinger, etc. Pour n'en nommer que quelques-uns, il en doit en avoir 25-30. Alors, ça, contrairement à la relativité, la mécanique quantique, qu'est-ce que ça regarde? Ça ne regarde pas le monde tel que nous, on peut le percevoir, mais bien l'infiniment petit, le monde des particules.
Mm-hmm.
Alors là, là aussi, l'observateur vient en ligne de compte, dans la mesure où là, ce n'est pas que dépendamment de l'observateur, ça change, c'est que l'observateur, en observant, il change la réalité.
OK.
Alors, ça devient encore plus touché, si tu me passes l'expression. C'est que là, quand on regarde quelque chose, c'est impossible de connaître à la fois sur une particule et sa vitesse et sa direction. Plus tu connais un des deux, moins tu connais l'autre.
Ah bon?
C'est
fascinant.
Oui, mais c'est assez simple à comprendre, en fait. C'est que si tu regardes quelque chose qui est en train de bouger,
oui.
Tu veux savoir il est où.
Oui.
Alors, tu essaies de savoir il est où, tu dis il est là. Ça veut dire que pendant qu'il est là, il ne bouge pas. À ce moment précis-là, il ne bouge pas. Fait que tu ne connais absolument rien de sa vitesse.
Non, en
effet. Si tu connais sa vitesse, ben là, tu ne sais pas il est où. C'est un petit peu simpliste, qu'est-ce que je te dis là, mais ça revient un peu à ça quand même. Et le fait de l'observer, pour l'observer, il faut que tu l'éclaires, si tu veux, ou du moins que tu le détectes d'une façon quelconque. Alors, aussitôt que tu envoies un photon sur un électron ou quelque chose comme ça, mais là,
tu crées un événement, tu changes ce que tu observes.
Tu changes ce qui se passe avec lui.
Okay.
Et là, évidemment, ça a donné lieu à toutes sortes d'exemples plus ou moins farfelus, comme le chat de Schrödinger,
le célèbre chat de Schrödinger.
Il est à la fois mort et vivant jusqu'à temps que tu le regardes, puis là, il décide de savoir s'il va être mort ou vivant. puis aussi, tantôt, on a mentionné que ces deux théories-là, la relativité et la mécanique quantique, n'étaient pas encore soudées ensemble et tout ça. Mais ce sont deux théories. Et c'est ça qui est important de comprendre. Ce ne sont pas. La science, c'est pas quelque chose d'immuable ou quelque chose. Au départ, ce sont des modèles. Et on peut pas parler de dogme quand on parle de modèle. On utilise ce modèle-là tant que ça fonctionne. Quand ça fonctionne plus, soit parce qu'on a changé de paramètre ou encore parce qu'on découvre que ça fonctionne tout simplement
c'est
pas.
C'est plus de l'expérimentation, finalement.
C'est ça. Mais ça fonctionne dans le sens où, quand on utilise notre GPS présentement, le satellite en haut doit corriger pour la relativité parce que son horloge atomique, elle ne marche pas exactement comme celle qui est sur la Terre. Alors, là, si on ne le faisait pas, ça, GPS, il ne marcherait pas. Là.
Ce que tu es en train de me dire, c'est que le fonctionnement des GPS tient compte de la théorie de la relativité.
Ah oui, oui, tout à fait.
Ah bon?
Au bout
de
X temps, là, ça ne marche plus pantoute. Là, ça fait comme le comme la map de Apple. Tu es à côté de la traque. Bien comme il faut. Et c'est ça. Alors, dans ce temps-là, la mécanique quantique, c'est vraiment l'observateur qui, lui, non seulement la réalité est différente pour chaque observateur, mais l'observateur qui observe cette réalité-là la change potentiellement.
Oui.
Alors, le doute commence à s'installer, si tu veux, assez fortement.
Très sérieusement, oui.
Plus tard, dans le 20e siècle, on a une troisième patente qui est la théorie du chaos. qui n'a rien à voir avec la physique de, profonde, si tu veux, comme okay. La mécanique quantique ou la relativité.
Okay.
Mais la théorie du chaos qui, elle, essaie d'étudier ce qu'on appelle les phénomènes dynamiques. Alors, les phénomènes okay. dynamiques, c'est quoi? Ça peut être la météo,
okay.
ça peut être la bourse, ça peut être n'importe quoi où il y a beaucoup d'intervenants ou même peu d'intervenants. Mais ce qui caractérise le tout, c'est que c'est dépendant aux conditions initiales. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que météo, média, après 2 jours, ils sont dans le champ.
Oui, parce que ça dépend des conditions initiales.
Oui, ça dépend des conditions initiales. Alors, ça a été mis en relief, si tu veux, par un dénommé Lorenz, qui, je pense que c'est dans les années 60, là, mais je ne veux pas m'avancer là-dessus exactement, qui, à un moment donné, faisait des modèles, des modélisations de systèmes météorologiques sur... à l'époque, l'ordinateur de l'époque. Et à un moment donné, il passe son programme, si tu veux. Puis là, bon, ben, ça prédit telle affaire. Puis là, il repasse son programme le lendemain ou la semaine suivante. Puis là, tout à coup, ça ne donne pas la même chose. Puis là, il s'aperçoit que, parce qu'il cherche l'erreur, parce que, je veux dire, c'est une machine qui passe des chiffres, c'est supposé de donner la même affaire. Puis là, il s'aperçoit qu'il avait oublié quelques décimales. T'sais, mettons que le chiffre, c'est 2.0487423.78. Là, oubliez le 8 à la fin. Puis là, ça marche au début. C'est pareil. Puis là, tout à coup, ça se met à diverger. Puis là, à un moment donné, c'est plus pas en tout pareil. Et ça, c'est la dépendance aux conditions initiales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour prédire quelque chose, et là, pour prédire quelque chose où Newton fonctionne encore, c'est-à-dire qu'il y a une cause-effet.
La table de billard.
Qu'il y a une table de billard, c'est ça, exactement. Ça veut dire que pour réussir à prédire quelque chose à long terme, à court terme, c'est pas trop un problème. Aussitôt que tu t'éloignes, que ta perspective, ton horizon s'éloigne un peu, ça prend une précision infinie.
OK.
Alors, c'est impossible. Même dans du déterminisme, il demeure que la théorie du chaos nous dit que
tes
prédictions, là, oui, un peu, mais après ça, là, oublie ça, c'est n'importe okay. quoi.
Alors, peu importe la compréhension qu'on peut avoir des phénomènes, que ce soit de la géologie par rapport au séisme, par exemple, pour pouvoir prédire les tempêtes, les tremblements de terre, les volcans, selon la théorie du chaos, peu importe le modèle qu'on va appliquer, c'est impossible.
Ouais, c'est ça, à long terme, c'est impossible. T'sais, tu peux toujours raffiner, avoir un modèle qui va fonctionner. Comme je te dis, Météo Média, demain, ils ont une bonne idée de ce qu'ils
oui.
vont faire. Quand ils te marquent leurs 14 jours,
c'est n'importe quoi.
C'est la tendance saisonnière, si tu veux. Ben, là, ça va aller en refroidissant parce que l'hiver s'en vient. Bravo! Alors, c'est un peu ça. Et la science, c'est ça, à partir de Newton, si tu veux, où on était sûr de tout, où on pensait avoir espoir d'un moment donné d'être sûr de tout et de tout comprendre, bien, au 20e siècle, fin du 19e, puis tout le 20e, on a mis des clous là-dedans en disant, regarde, non, la relativité, bien là, ça dépend de l'observateur. La mécanique quantique, bien, regarde, aussitôt qu'un observateur, t'es dans la rue, puis le chaos nous dit, bien là, que tu as un robot observé, ça donne absolument rien à long terme. Fait que le doute, ça fait partie de l'univers, je pense, puis il faut qu'on vive avec. Pis ça ne veut pas dire que tout ça ne fonctionne pas, puis qu'on n'est pas capable de faire des choses, mais la science doute de plus en plus.
Voilà. Moi, c'est ce que je comprends, suite à vos deux exposés, c'est que si on veut des certitudes, il ne faut pas aller les chercher en science parce qu'on est mal pris, là.
Entendons-nous, c'est que le modèle, une fois que tu as accepté le modèle, puis ça, tu peux t'en servir puis arriver à des choses, faire des choses avec ça. On a des TV, on a des cellulaires, je veux dire, ça fonctionne.
Oui.
Mais plus loin que ça, faut comprendre que ce ne sont que des théories et des modèles qui fonctionnent dans certains paramètres.
Parfait. Ben merci beaucoup, Martin. C'était extrêmement clair et éducatif pour tout le monde. On va faire une pause musicale et on va s'en aller vers un autre domaine de connaissance. On va parler du doute en philosophie avec Adrien, mais d'abord, on va écouter une pièce qui est en fait un texte écrit et lu par Jacques Brel et qui s'appelle « Dites si c'était vrai ».
Dites, si c'était vrai, s'il était né vraiment à Bethléem, dans une étable, dites, si c'était vrai, si les rois mages étaient vraiment venus de loin, de fort loin, pour lui porter l'or, la myrrhe, l'encens. Dites, si c'était vrai, si c'était vrai tout ce qu'ils ont écrit, Luc, Matthieu et les deux autres, dites, si c'était vrai, si c'était vrai le coup des noces de Cana et le coup de Lazare, dites, si c'était vrai, si c'était vrai ce qu'ils racontent les petits enfants le soir avant d'aller dormir, vous savez bien, quand ils disent notre père, quand ils disent notre mère, si c'était vrai tout cela, je dirais oui, ou sûrement je dirais oui, parce que c'est tellement beau tout cela quand on croit que c'est vrai.
Alors, c'est un texte écrit et lu par Jacques Brel et j'accueille maintenant Adrien. Bonsoir Adrien.
Bonsoir Catherine.
Ça me fait plaisir de vous accueillir à mon émission.
C'est la même chose maintenant.
Alors, on a parlé de religion, on a parlé de science, on va aborder maintenant un autre domaine de connaissance qui est la philosophie. Qu'est-ce que le doute en philosophie, Adrien?
En fait, voyez-vous Catherine, d'une façon générale, le doute est un état d'équilibre entre l'affirmation et la négation. Au plan philosophique, le doute assure une fonction critique. Il consiste à ne pas adhérer à une affirmation avant d'avoir bien pesé les raisons sur lesquelles elle se fonde. Le doute fait donc partie de la méthode en philosophie. Aussi est-il considéré par Descartes comme un facteur déterminant de la réflexion philosophique.
En fait, ça me fait beaucoup penser à la définition du doute en science aussi, parce qu'on parle de méthode, on parle de fonction critique. Le doute en science et le doute en philosophie.
En fait, c'est sensiblement la même démarche en science comme en philosophie. D'ailleurs, la méthode scientifique tire elle-même son origine de la philosophie. Et la philosophie des sciences, qu'on appelle de nos jours l'épistémologie, est un fondement philosophique.
OK.
Donc, le doute en science et le doute en philosophie remplissent la même fonction critique.
Qui est la fonction critique?
Oui.
D'accord. Je vous laisse poursuivre.
Alors, au cours des prochaines minutes, nous allons aborder certaines positions philosophiques qui se rapportent à l'existence de Dieu. Ce sujet, on le sait, a donné lieu à bien des interrogations et suscité de nombreux doutes. Le philosophe Martin Heidegger disait que faire de la philosophie, c'est réfléchir sur le langage.
Oui.
Alors, nous allons donc examiner certains termes faisant partie du vocabulaire philosophique et tenter de proposer une réflexion à leur sujet.
Okay.
Les vocables que nous avons choisis sont le déisme, l'athéisme, le panthéisme et l'agnosticisme.
D'accord.
Ces notions ont de tout temps divisé les esprits et provoqué le doute.
En effet, et souvent on les mélange.
Oui, tout à fait. Il faut dire d'abord que la question de Dieu relève à la fois de la religion et de la philosophie. Sur le plan religieux, Dieu est objet de foi. La Bible, aussi bien que la littérature rabbinique, tient l'existence de Dieu pour un axiome.
Oui.
À aucun moment, les auteurs de la Bible ne présentent des arguments tendant à démontrer son existence. Le doute n'existe pas à ce niveau. Nous sommes ici au cœur même de la foi. Or, l'acte de foi n'est pas un acte philosophique.
Non, en effet. Mais la question, par contre, de l'existence de Dieu, elle, a fait l'objet de réflexions philosophiques.
Tout à fait. Tout à fait. La question de Dieu se présente d'une façon différente lorsque nous l'abordons sous l'angle de la philosophie. Les philosophes de tendance déiste reconnaissent l'existence d'un Dieu personnel sans toutefois référer à la révélation. C'est le cas, par exemple, de Voltaire, qui n'avait pas la foi religieuse, mais voyait dans l'ordre et la finalité de la nature une preuve de l'existence de Dieu. Voltaire, vous savez, était franc-maçon.
Oui.
Et à l'instar des francs-maçons, Dieu était pour lui le grand architecte. Voltaire disait le grand horloger. et c'est-à-dire celui qui ordonne et gouverne le monde.
Et si je vous interromps parce que vous me parlez d'un concept que je ne connais pas bien, vous parlez de la révélation. À quoi vous faites allusion?
Oui, alors avec la révélation, on est dans le domaine du religieux.
Ouais.
Le judaïsme et le christianisme sont, comme vous le savez, des religions révélées. C'est-à-dire que les auteurs de la Bible et les prophètes de l'Ancien Testament sont considérés comme des gens inspirés par Dieu pour révéler aux hommes des vérités qui sont inaccessibles à la raison humaine,
okay.
Comme l'idée de résurrection, de trinité, de péché originel et autres notions du genre.
Okay.
Donc, quand on parle de révélation, on parle de la révélation dans l'histoire. C'est-à-dire que Dieu se révèle dans l'histoire, mais le premier stade de la révélation, il est dans la nature. Et c'est dans ce sens-là que les philosophes déistes, voyant, tirent de l'ordre de la nature et de la finalité qui existe dans les choses, une conclusion sur l'existence de Dieu.
OK. Donc, dans le cas des déistes, c'est plus un acte de raison qu'un acte de foi.
Tout à fait.
La croyance dans Dieu est plus une question de raison.
C'est-à-dire que les déistes considèrent qu'on peut, par des voies philosophiques, en arriver à l'existence de Dieu, à démontrer son existence.
D'accord.
C'est, en fait, les penseurs déistes admettent donc l'existence de Dieu comme cause première du monde, mais les philosophes non-croyants mettent en doute son existence.
OK.
Ces derniers n'appartiennent pas tous, bien sûr, à la même école. Ils se répartissent en diverses catégories selon la façon dont ils envisagent le problème de l'être en philosophie.
D'accord.
La doctrine la plus radicale à cet égard est l'athéisme, qui nie l'existence de Dieu. L'athéisme est donc une négation, mais aussi une affirmation à l'effet que Dieu n'existe pas.
OK.
Cette position repose souvent sur le matérialisme. Pour les philosophes de cette tendance, seule la réalité matérielle existe. Chez les Grecs de l'Antiquité, par exemple, Épicure fut le principal représentant de ce courant. Chez les modernes, l'athéisme a connu un essor important, surtout à partir du 19e siècle. Le marxisme a beaucoup contribué à son développement. Il a fait de l'athéisme un article de foi se rattachant à une doctrine sociale.
OK.
Nous sommes ici très loin du doute cartésien, Catherine.
Oui.
Dans un pareil système, la philosophie est instrumentée à des fins politiques et tourne à la propagande. Il ne s'agit plus tellement d'interpréter le monde selon la formule de Marx, mais de le transformer.
Donc moi, ce que je comprends dans ce que vous venez de dire, c'est que l'athéisme est ici un dogme.
En fait, l'athéisme, chez certains auteurs, eh bien, il se présente un peu comme une sorte de dogme.
Okay.
Et le dogmatisme, on l'a vu tout à l'heure, existe non seulement en philosophie, non seulement en religion, mais il existe en politique, dans le domaine de l'économie, et dans les idéologies d'une façon générale.
Ouais. Il y a un dogme d'ailleurs, je dirais en économie, qui est très très populaire ces temps-ci, c'est celui de la croissance.
Oui, nous n'avons pas le droit de remettre ça en question.
Non.
C'est une vérité révélée par des journaux.
Voilà. C'est très bien dit.
Les journaux ne mentent jamais.
Merci Adrien de nous rappeler à l'ordre. Donc, alors, effectivement, l'athéisme est souvent un dogme,
il peut l'être,
devient un dogme.
Il peut l'être. En fait, le dogmatisme...
Vous parliez du marxisme ici, qui était aussi un athéisme dogmatique.
Oui, oui, tout à fait, et qui a conduit à des régimes politiques qui n'étaient pas du tout des régimes basés sur le doute, mais des régimes qui étaient répressifs,
ouais.
Et comme on le disait, où le mensonge et l'assassinat étaient des méthodes de gouvernement.
Oui, alors on peut effectivement dire que c'est assez dogmatique.
En fait, en dehors du marxisme, si on reste toujours dans l'athéisme...
Dans l'athéisme?
En dehors du marxisme, l'athéisme s'est exprimé aussi avec des variantes dans l'œuvre de nombreux philosophes, que ce soit Auguste Comte, Nietzsche, Heidegger, Russell, Sartre, Foucault et plusieurs autres. Chez ces auteurs, la réflexion n'a pas toujours été marquée par le doute. La philosophie moderne s'est détournée de la sagesse pour aboutir, dans bien des cas, à un anti-humanisme.
Et qu'est-ce que vous appelez anti-humanisme?
Bon. En fait, l'anti-humanisme prend la forme suivante. Je m'éloigne un peu trop du micro, je pense.
Non, ça va bien.
Ça va. Alors, l'anti-humanisme, il s'exprime de différentes façons selon les auteurs. Je pense, j'avais pensé traiter ce sujet de Foucault,
oui.
Mais je vais peut-être plutôt parler de Sartre et, okay. et de Heidegger. J'avais pris une note à ce sujet-là.
Ah!
Ouais.
Je pense qu'elle est là.
Alors, chez Sartre, on a évidemment une chose qui est assez nouvelle dans le domaine de la philosophie, c'est le rejet de la nature humaine. C'est-à-dire que Sartre nie la nature humaine.
Okay.
Et la nature humaine a de tout temps existé comme fondement de la dignité des personnes. Et il faut bien voir aussi que chez Heidegger, il y a également une critique de l'humanisme tel qu'il existait en Occident.
Mm-hmm.
Et c'est peut-être pas un hasard si ces deux penseurs ont endossé des régimes totalitaires.
Okay.
Le régime nazi pour Heidegger, et Sartre qui a de son côté aussi s'est rapproché beaucoup du régime communiste,
ouais.
Et a endossé beaucoup à l'époque ces régimes-là.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on agit comme on pense, et il n'y a pas de coupure vraiment entre les positions philosophiques des auteurs et leur position, je dirais, leur position politique.
Ok. Donc, ça, l'être humain devient c'est une instrumentalisation de l'être humain, dans le fond, à des fins idéologiques.
Et de pouvoir.
Okay.
À des fins idéologiques, okay. Et de pouvoir.
Donc, l'athéisme a connu des dérives assez importantes, on pourrait dire ça.
Oui, en fait, il est bien certain que dans la mesure où, quelle que soit la forme que prend l'athéisme, si l'être humain est un mélange d'atomes et de produits chimiques, ben pourquoi est-ce qu'on respecterait des produits chimiques puis des atomes?
Oui, il y a effectivement ce problème-là. On va passer au panthéisme?
Oui, en fait, le panthéisme est un courant de pensée assez particulier. Depuis Spinoza, le panthéisme est un système philosophique qui a occupé une place non négligeable. Il s'agit d'une doctrine hybride tenant à la fois du déisme et de l'athéisme. Elle se présente comme une sorte de spiritualisme sans Dieu, dans la mesure où la réalité divine et le monde forment une seule substance. Cette philosophie tente de concilier des éléments contraires.
Mm-hmm.
Chez Hegel, par exemple, Hegel qui était un peu le Napoléon de la philosophie.
Ah bon?
Bon. Hegel pensait que toute l'histoire de la philosophie menait à lui.
OK.
Bon. Alors, voyez, il était d'ailleurs un contemporain de Napoléon, et Napoléon l'a beaucoup fasciné,
okay.
Comme il en a fasciné d'autres.
C'est excellent.
Donc, chez Hegel, le panthéisme prend une connotation fortement idéaliste, le monde étant pour lui une émanation de l'idée.
Mm-hmm.
On est assez proche là, de Platon quant à la conception ici,
okay.
qui est tout à fait idéaliste.
Okay.
Bon, pour Renan, qui était lui-même un lecteur de Hegel et qui a aussi subi l'influence de Darwin, Dieu est une réalité en devenir. Donc, il y a comme une sorte de panthéisme évolutionniste chez Renan. Dieu est une réalité en devenir qui se fait progressivement et sera le terme du progrès de l'univers.
Donc, on va venir à Dieu un jour.
Renan disait, Dieu n'existe pas, mais il existera certainement un jour.
Bon.
Vous voyez là? Alors,
il faut avoir de l'espoir.
Bon. Alors, ce sont des conceptions qui nous laissent quelque peu sceptiques.
En effet, oui.
Elles conservent l'idée de Dieu, mais en le dépouillant de ses attributs.
Okay.
Ainsi, Dieu n'est plus un être transcendant, absolu et distinct du monde. Il n'est que le monde en devenir. Le panthéisme apparaît ainsi comme une sorte de matérialisme spiritualisé.
Le matérialisme spiritualisé.
Ouais.
Ce n'est pas une notion qui est facile à comprendre. La première fois que j'ai lu votre texte, ça m'a fait penser au New Age, où des gens qui trippent sur le respect de la nature et que Dieu est un peu dans la nature, mais c'est pas facile à comprendre, le panthéisme.
En fait, c'est vrai que c'est une philosophie qui essaie, comme on disait tout à l'heure, de concilier des éléments contraires.
Mm.
C'est-à-dire que de concilier l'idée d'un monde matériel,
oui.
Et d'un monde spirituel comme étant lié.
Okay.
Nous avons cette idée-là un petit peu chez Teilhard de Chardin, bien que Teilhard ne soit pas un panthéiste lui-même.
Okay.
Mais il y a cette idée que le monde est comme gouverné par une sorte d'intelligence ou d'une sorte d'esprit.
Ah, d'accord.
Vous voyez là?
OK, qui est liée, c'est l'intelligence de la nature.
Qui est liée au monde, mais qui n'est pas transcendante.
OK. Alors, okay, c'est alors que, je comprends.
Alors, c'est le fait qu'il y a une intelligence à l'œuvre dans la nature, mais cette intelligence-là, ce n'est pas Dieu qui est à l'extérieur du monde.
OK.
Elle est immanente au monde. Okay. Et ce que ces auteurs appellent panthéisme, c'est le fait que, pour eux, le monde et Dieu sont une seule substance. Dieu n'existe pas en dehors du monde.
D'accord. Et c'est qu'il y a une intelligence dans la nature.
Il y a une intelligence à l'œuvre dans la nature.
Sans intention.
Avec intention, parce qu'une intelligence, c'est toujours avec intention.
Avec intention. C'est ça. D'accord. Je vais finir
parce que le principe d'une intelligence, c'est de prévoir et d'agir en vue d'une fin.
Okay.
Et c'est comme ça que Voltaire ou d'autres ont pu voir dans la finalité, dans la nature, une preuve de l'existence de Dieu, okay. Bien que Voltaire n'était pas lui-même un panthéiste, mais non. Plutôt un partisan du déisme.
Un déiste, exactement. Comme on a vu tout à l'heure.
Exactement, oui.
T'es arrivé à ça par la raison.
Mais il est bien certain que le panthéisme et la pensée de Hegel est quelque chose qui n'est pas facile à saisir. Et on est un petit peu, comme je vous disais, dans les brumes de la pensée allemande, là.
Ouais.
C'est pas toujours simple de
de tomber dans les brumes de la pensée allemande. Il y a quelqu'un que ça fait bien rire ici.
Et c'est vrai que le doute peut conduire au rire. Oui. Le rire est une forme de doute présentement là.
Alors, tant qu'à douter, on va tomber dans l'agnosticisme.
Alors, l'agnosticisme est une position beaucoup plus facile à comprendre. Il s'agit en fait d'une doctrine métaphysique selon laquelle seul le monde sensible peut être connu par l'esprit humain. On reconnaît la position de Kant qui nous parle d'un noumen qui est une réalité auquel on n'a pas accès. On ne peut connaître que ce qui est de l'ordre sensible. Okay. Mais ce qui est au-delà du sensible, on ne le connaît pas.
Okay.
Alors, c'est donc une position qui existe notamment chez Kant, et pour lui, les réalités ultimes et la question de Dieu ne peuvent faire l'objet d'aucun savoir philosophique.
Okay.
Il ne dit pas que ça n'existe pas.
Non.
Il dit que ça ne peut pas faire l'objet d'un savoir philosophique.
Okay.
Les agnostiques considèrent donc l'existence de Dieu comme un problème insoluble. Et aussi, le doute est-il pour eux la seule attitude possible face à cette question?
Dans le fond, l'agnosticisme, c'est vraiment la position philosophique qui pose le doute comme un a priori.
Qui pose le doute comme étant quelque chose qui se rapporte à cette question. Les agnostiques ne doutent pas de tout.
Non.
Oui. Mais ils doutent que on puisse avoir une réponse certaine concernant la question de Dieu. Okay. Ils ne disent pas que Dieu existe. Ils ne disent pas non plus qu'il n'existe pas. Ils disent « c'est impossible de le savoir ».
Voilà.
Et comme c'est impossible de le savoir, bien, ils, comme on disait, ils préfèrent se reposer sur l'oreiller du doute. Alors, si on voulait résumer en quelques mots les positions qu'on vient de présenter, mm-hmm. nous dirions que les partisans du déisme affirment l'existence de Dieu tout en récusant la révélation. Les athées, eh bien, nient l'existence de Dieu. Tandis que les agnostiques refusent de se prononcer d'une façon ou d'une autre. Donc, pour eux, c'est le doute.
Parfait. Ben merci beaucoup, Adrien. C'était très clair. Et ça nous permet de démêler deux notions qu'on mélange assez souvent, qui est l'athéisme et l'agnosticisme. Alors que là, c'est très clair. L'athéisme, c'est une position qui peut devenir dogmatique.
Qui peut le devenir.
Et pas l'agnosticisme, alors, parce qu'on ne se prononce pas, en fait.
On ne se prononce pas, et les agnostiques ne sont pas... ne sont pas des athées, ce sont des gens qui pensent qu'il est impossible de se prononcer d'une façon certaine. Pour eux, le doute est raisonnable et ils peuvent difficilement, sur cette question-là, sortir du doute. On ne peut pas savoir. C'est un peu le sens même du mot agnosticisme, c'est qu'il n'y a pas de connaissance à ce sujet.
Parfait. Ben, merci beaucoup, Adrien. Merci d'être venu. Catherine,
c'est un plaisir, comme toujours.
Thank you.
Alors, c'est comme ça que se conclut notre émission sur le doute. Je tiens à remercier mes invités. D'abord, Émile Grigoroff, que vous pourrez entendre le 13 octobre à 19h à la librairie Saint-Jean-Baptiste lors de sa conférence sur la justice meurtrière, ou plutôt sur la peine de mort. Je remercie de leur générosité tous les intervenants de ce soir qui ont mis temps et effort pour nous entretenir du doute, Mylène, Patrick, Martin et Adrien. Merci à David, notre libraire aubergiste qui nous accueille sous ses auspices. Merci à Gab Paquette pour la composition du thème de l'émission. À notre technicien, Anaël, comme toujours fidèle au poste pour la mise en onde. Et enfin, merci à Bicnic qui nous héberge sur son site web et sur les ondes de Radio Fiat Lux. La thématique du mois de novembre sera la Révolution. Et l'émission sera enregistrée le 5 novembre. Merci. Bonsoir.